Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Spécialiste des Pyrénées, de ses hommes et de ses légendes, cet auteur propose aujourd'hui une littérature de fiction dans le registre des nouvelles. Est-ce étonnant ? Les légendes ne sont-elles pas associées aux lieux, aux faits historiques, à la vie sociale, à une forme de réalité donc, tout comme les romans ou les nouvelles ne s'appuient pas bien souvent sur des êtres et des situations qui confinent au mythe ? Il s'agit ici de 18 nouvelles qui, avec subtilité et bien souvent humour, aborde des thèmes de la vieillesse, de l'approche de la mort, puis dans une seconde partie, et pour notre plus grand bonheur, nous font virevolter dans le monde fabuleux des mots et de leurs chantres, les écrivains. Cet ouvrage s'intitule mystérieusement « Moi, je conduirai des chevaux ». Il est édité par les éditions Lucane et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui son auteur, Anne Lasserre-Vergne. Anne Lasserre-Vergne, bonjour.
Bonjour Monique.
Alors, avant de parler de votre nouvel ouvrage, parlez-nous un peu des légendes pyrénéennes. Que vous ont-elles apporté ? Parce que vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur les légendes pyrénéennes.
Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une thèse sur le légendaire pyrénéen.
Et emporté par votre élan.
Voilà. Donc, j'ai publié des ouvrages sur les légendes, dont des récits racontés aux enfants, Bosse de Bénac et autres légendes pyrénéennes. Mais je me suis principalement intéressée à ce qui faisait la spécificité des légendes pyrénéennes. En réalité, elles appartiennent pour beaucoup à un fond commun, mais elles se sont en quelque sorte naturalisées dans les Pyrénées, puisqu'elles mettent en scène des lieux, des bergers pyrénéens, la vie sociale pyrénéenne, la misère, la pauvreté bien souvent des bergers pyrénéens.
Alors, est-ce que c'est parce que vous avez eu l'impression d'épuiser le répertoire des légendes pyrénéennes que vous avez abordé les nouvelles ?
Ah, pas du tout, Monique. J'ai toujours aimé les nouvelles, la fiction.
Les textes courts, pourquoi ?
Voilà. Parce que les textes courts permettent de saisir un instant du quotidien et ces instants qu'on n'a pas l'habitude de vivre, qui nous paraissent anodins, et elles donnent un sens à ces instants et c'est une façon de leur faire acquérir la part d'éternité qui leur revient. Et en même temps, dans la fiction, un personnage évolue. C'était Albert Camus qui disait que les personnages finissent toujours ce que nous n'achevons jamais. Et dans la fiction, on les prend à un moment, dans la nouvelle, pardon, on les prend à un moment où leur vie va basculer vers ce quelque chose que nous n'achevons jamais.
Alors, en plus, il y a quand même une implication plus personnelle.
Oui, et oui. Il est tout à fait différent d'écrire sur les Pyrénées. C'est un travail intellectuel, donc qui n'implique pas tout l'être. On fait des recherches, on analyse, on fait des synthèses, on fait un plan, on rédige en étant tout à fait extérieur à ce qu'on écrit. Tandis que dans la fiction, on participe, on se nourrit des personnages que l'on crée et en même temps, on les nourrit de ce que l'on est, de ce que l'on observe, de ce que l'on entend. Je dis souvent que l'écrivain est un peu un voleur, mais un Arsène Lupin, parce que il redonne en quelque sorte ce qu'il a entendu à droite, à gauche, ce qu'il pille au hasard d'une rencontre, ne serait-ce que lorsqu'il croise des passants.
Et figurez-vous qu'en lisant vos nouvelles, toutes passionnante, je me suis dit, mais dans le fond, il y a des personnages qui sont quasiment mythiques.
Oui, parce que là aussi, je me suis rendu compte que je m'intéressais de plus en plus à Œdipe, à Médée ou à Orphée dans ce recueil, donc des personnages de la mythologie grecque. Parce que le mythe, finalement, renaît toujours de ses cendres, on peut toujours l'actualiser, et les personnages des mythes, finalement, renferment l'essence de l'être humain. Et ils nous parlent vraiment beaucoup.
Oui.
C'est pour ça qu'on peut faire d'Orphée, j'ai fait d'Orphée un chanteur-compositeur tout à fait moderne.
Voilà. Alors, justement, vous avez dans votre ouvrage, il y a deux parties très différentes. La première intitulée Dans l'interstice des jours et qui aborde un thème rarement abordé en littérature. Et j'ai trouvé ça très courageux de votre part.
Vous voulez dire le thème de la fin ?
Alors, le thème de la fin, le thème de la vieillesse,
oui.
Et le thème de la vieillesse, vraiment,
oui.
Déjà. Et je trouve que c'est très rare. Et le fait d'avoir écrit des nouvelles sur ce thème-là, donc en prenant, c'est comme un prisme, des facettes différentes, vous en faites pas le tour, on n'en a jamais
oui.
fait le tour, mais vraiment, vous voyez beaucoup de choses, et je pense que ça pourra énormément intéresser vos lecteurs. Vraiment.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à le prendre ? Parce que j'ai réfléchi, finalement, il n'y a pas énormément de livres qui parlent de la vieillesse.
Oui, je n'y avais pas pensé. Alors, pour répondre d'abord à la première partie de votre remarque, j'ai été très touchée à Saint-Lary parce qu'une dame de 95 ans est venue me remercier et me dire « Mais comment avez-vous fait pour vous mettre dans la peau d'une vieille dame ?» C'est exactement ça, on se sent ligoté. Et c'est vrai que autour de moi, j'ai observé des personnes en révolte contre la vieillesse, d'autres qui l'acceptaient. Et c'était important pour moi d'en parler, d'évoquer cette façon d'aborder cet autre pan de la vie, en quelque sorte, qui ébranle certains et qui amène la sagesse pour d'autres, ou qui les rend encore plus aimants avec un grand A. On a l'impression qu'ils découvrent à la fois la sagesse et l'amour de l'humanité en vieillissant, et d'autres au contraire qui se replient sur eux et abordent très très mal ce virage.
Oui, alors c'est vrai quand même que dans votre ouvrage, c'est souvent l'angoisse de la mort. C'est très bien dit, c'est très bien oui. ressenti avec une acuité extraordinaire. Et cette personne que vous avez rencontrée qui dit « Comment avez-vous pensé à tout ça ? Comment avez-vous deviné ?» Vous parlez par exemple de la trahison du corps,
oui.
la perte de l'autonomie. C'est terrible. Et je me... Pour revenir à ce que tout à l'heure, la question que je vous posais, je me suis dit, mais dans le fond, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de personnes âgées.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est vrai que ce sont des sujets, des problèmes que nous devons connaître.
Oui. Et par exemple, il y a une des nouvelles que j'ai écrite après avoir quitté une personne que j'étais allée voir dans une maison de retraite. Et sur le chemin du retour, dans ma tête, la nouvelle s'est mise en place. En quelque sorte, pour moi, c'était vital pour arriver à dépasser cet environnement de maison de retraite que je trouve un petit peu infernal parce que ça tient à la fois de la clinique, de l'hôpital, ça tient à la fois des gentils animateurs là.
Le Club Med.
Du Club Med. En fait, ce sont des gens que l'on dépossède en quelque sorte de leur fin de vie. C'est ce que j'ai ressenti.
C'est ce que vous avez ressenti. Oui. Alors, c'est vrai que quand vous parlez de l'hôpital et des maisons de retraite, c'est vrai qu'il y a un regard assez pessimiste, assez sombre. Je me suis posé la question. C'est vrai que ça ne peut pas convenir à tout le monde.
Hein? Non, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Et bien sûr, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons de retraite, il y a des êtres extraordinaires qui s'occupent des patients, en quelque sorte. J'en ai rencontré, j'en ai vu à l'œuvre, mais il y a aussi tous ceux qui font un peu leur travail, comme s'ils n'avaient pas affaire à des êtres humains.
Oui.
Il manque une dimension.
Une dimension.
Voilà.
Oui. Oui, alors là, on le voit à plusieurs endroits. Il y a la grand-tante. Alors, la grand-tante, elle est extraordinaire, cette grand-tante. On aimerait tous avoir une grand-tante comme ça. Elle est originale, elle est
oui.
farfelue. Et c'est elle qui décide de partir en maison de retraite. Et la regard de sa petite nièce, finalement, est épouvantée.
Oui. Alors, effectivement, je me suis beaucoup amusée à créer ce personnage hein, de toute pièce, une
il
grande tante.
Oui,
voilà.
Il en existe, effectivement.
Oui. Donc, une grande tante qui a une vie un petit peu qui n'est pas dans la norme, effectivement, qui a un potentiel de vie en elle, de joie assez extraordinaire. Et effectivement, c'est sa petite nièce qui
en a mal.
Voilà. Oui. Qui le vit
parce
très mal.
Elle, elle a beaucoup d'humour. Oui. À un moment donné, elle dit quel bonheur d'être entendue parce que sa petite nièce l'entend, oui. alors qu'autour d'elle, il y a beaucoup de gens qui sont sourds.
Oui.
Ou alors elle dit associer 90% d'apparence à 10% de culot et 10% de culture. C'est la recette de quoi, là?
De la réussite.
Voilà, voilà ce qu'elle dit à sa petite nièce.
De la réussite sociale pour
bon,
elle.
Dans le fond, c'est parfois, c'est aussi l'entourage qui vit mal la maison de retraite. Et là, on oui. le voit, et cette jeune femme qui dit « je n'assurerai pas mon tour », elle démissionne.
Oui, voilà, quand elle ne reviendra plus, elle se sent incapable de revenir voir sa grand-tante en maison de retraite, alors qu'il y a comme un tour de présence qui a été élaboré par la famille. Et elle sait qu'elle ne pourra plus. C'est beaucoup trop de souffrance pour elle, finalement. Elle est comme une éponge. Et la souffrance qu'elle imagine être celle de sa grande-tante, c'est elle qui est en train de l'absorber.
Oui, oubliant quand même que ce qu'elle apporte est important pour sa grande-tante.
Et voilà.
Très probablement.
Oui, oui.
Justement, on parle de maison de retraite, mais vous parlez d'hôpital. Et là aussi, il y a un vieil homme hospitalisé qui écrit son journal et qui se sent exclu. Et ce que vous dites, c'est bien vrai. Et je pense quand même qu'il y a beaucoup maintenant de personnels soignants qui font attention. On est la maladie, ou pire, on est le numéro, c'est le 212, par exemple. Voilà, on n'existe plus, on s'efface.
Oui. Et alors là, heureusement, comme vous le dites, pour avoir fréquenté des cliniques et des hôpitaux ces derniers mois, je me suis rendu compte qu'on faisait davantage attention, oui. qu'on donnait bien le nom de la personne et qu'on s'intéressait à elle comme à un être humain. Et j'avoue que c'était, que c'est pour moi très, très important. Et
bien
pour
sûr.
Les patients que j'allais
bien
voir
sûr.
Aussi, ça permet de rester en quelque sorte en vie jusqu'à la fin.
Restons auprès de ce vieil homme qui écrit son journal. Et il découvre aussi, tout d'un coup, alors évidemment, il est un peu coincé, bon, il n'a pas toute son autonomie, mais il découvre à la fois l'odorat, la toucher et l'ouïe. Tout d'un coup, il apprend à réaliser, on ne fait pas assez attention à ce qui nous entoure, et lui, il le fait.
Oui, il le découvre tardivement, finalement, en revenant chez lui. Et justement, je me dis qu'on devrait apprendre aux très jeunes enfants à développer les sensations qui nous font vivre sans qu'on le sache et qui nous aident à nous construire. On
oui.
devrait être davantage
oui.
attentif oui. au vol d'un oiseau, au parfum d'une fleur,
oui.
à la beauté qui nous entoure et ne pas être privé de toute une partie de notre être.
Est-ce que Anna Cerverne, ça serait pas le rôle des grands-parents à montrer ça à leurs petits-enfants?
Je pense que ça peut être le rôle des grands-parents, mais je pense aussi que ça pourrait être le rôle des parents,
et
des enseignants,
éducateurs, oui.
voilà, des éducateurs, que
alors,
tout le monde a son rôle à jouer.
Alors restons toujours avec ce monsieur qui pose la question au médecin, est-ce grave, docteur, d'atteindre l'âge de la relecture? Mais alors, il a un sacré caractère.
Oui, il est épouvantable.
Il est épouvantable. Alors, il nous fait rire, mais en même temps, on se dit, alors avec ses voisins, et c'est vrai que quand même, il y a, parfois, on peut vieillir en étant hargneux.
Voilà. Et c'est vrai qu'il est très hargneux, lui. Alors, de temps en temps, justement, sa petite fille arrive à l'amadouer, à le dérider, et avec ses voisin.
Elle le trouve irascible, elle
oui,
lui dit, elle,
oui, voilà, il est à la limite de l'impolitesse par moment. Et on le sent à la fois attiré par ses voisins et en même temps, il l'ennuie parce qu'ils font du bruit, ils restaurent leur maison et il ne peut plus écouter la musique qu'il aime écouter comme il voudrait. Il avait pris l'habitude d'être seul puisque la maison d'à côté n'était
oui,
plus habitée.
Oui, oui. Alors étonnamment, au lieu de se réjouir d'avoir des voisins qui ont l'air sympathiques,
oui.
non, il ronchonne, il y a du bruit, voilà, ça, il est dérangé. Et on observe ça aussi, attention, on va savoir comment il faut essayer de ne pas vieillir. Mais ce que vous dites, et ça c'est souvent très émouvant, c'est justement la trahison du corps, la peur de la perte d'autonomie. Ça, plusieurs fois dans vos nouvelles, on le retrouve.
Oui, Parce que bon, j'ai vu autour de moi des gens qui sont devenus dépendants d'autres personnes pour se lever, pour s'asseoir, pour se coucher.
Des personnes qui étaient très actives.
Des personnes qui étaient très actives. Et effectivement, je suis admirative quand ils l'acceptent avec sagesse. Mais je comprends aussi que ça doit être dramatique de perdre cette indépendance physique. Et on oublie très souvent, quand le corps marche bien, quel service il nous rend.
Oui, oui, oui. Là, par exemple, il y a un Noël avec trois générations. Il y a Dorothée qui est muette, qui est en colère, qui est révoltée.
Oui, elle est révoltée par la vieillesse.
Parce ça que sert à quoi?
Et voilà, ça ne sert à pas grand-chose parce que du coup, elle passe à côté de ses enfants, de ses petits-enfants, de la joie qui habite la maison parce que c'est Noël. Donc, elle continue à faire la crèche. Elle continue à décorer la maison. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus d'âme dans ce qu'elle fait parce qu'elle ne peut plus être, en quelque sorte, au service de ses enfants. Et elle n'accepte pas que ce soit eux qui l'aident maintenant, alors qu'ils le font avec bonheur
tout
et
à
amour.
Fait, tout à fait. Alors, Anna Servain, est-ce que vous accepteriez de lire justement un passage qui concerne cette personne, à la page 31, leur mère n'acceptait pas de vieillir. Page 31.
Oui. Leur mère n'acceptait pas de vieillir. Mater Dolorosa, elle berçait sur ses maigres genoux son enfance, ce temps que l'on déclare à jamais heureux et qui peut vous pétrifier tout au long de votre vie. Elle courait sous d'autres cieux, cheveux roux au vent, entretenant des dialogues sans fin avec ceux qui n'étaient plus. Il suffisait de passer la porte du salon pour comprendre l'irrémédiable. En ce Noël 2015, Marie n'enfanterait pas Jésus. Les rois mages allaient se perdre dans une nuit profonde où clignoterait parfois une étoile lointaine. Leur mère avait maintenu les rites, mais ils étaient devenus creux, vides de sens. Sur les rives de la grande vieillesse, leur mère avait renoncé à l'amour, avait cessé de les aimer. Puisque ses enfants prenaient désormais les rênes de la maison, puisqu'il lui fallait abandonner chaque jour un peu plus ce qui avait été sa raison de vivre, elle refusait même d'être aimée. « Maman, tu t'es surpassée cette année. C'est une maison de contes de fées, » dit Géraldine, avec sa voix tout en sourire. « C'est normal, c'est Noël, » répliqua Dorothée. Enfant buté, leur mère déchirait le présent. L'amour avait cédé la place au désespoir. Ses yeux d'un bleu d'acier avaient la fixité et la dureté de l'aigle aux ailes brisées. Ah, puisque le temps avait fait d'elle une vieille femme, alors que ses enfants allaient et venaient sans même se rendre compte du bonheur qu'ils devraient éprouver à se déplacer avec agilité et souplesse, elle ferait de son fauteuil une tour fortifiée. Qu'ils en fassent le siège ne la délogerait pas. Dorothée avait préparé Noël, et maintenant qu'ils étaient tous là, sa vieillesse lui devenait insupportable. Leur père ne disait rien, ne se plaignait pas, ne se révoltait pas. « Ma tête est vieille, » disait-il parfois, quand il cherchait un mot que sa mémoire lui refusait. Il se dressait vaillamment en première ligne, protégeant encore et toujours ses enfants.
Très beau texte, très belle écriture, très belle diction aussi, Anne La Servergne. Oui, c'est vrai que, en vous écoutant, je me disais que décidément, il faudrait apprendre à vieillir, s'y préparer.
Oui, je pense qu'il faut s'y préparer et trouver en soi tout ce que peut apporter chaque âge de la vie. J'ai découvert qu'on pouvait avoir, par exemple, l'âme en joie et le cœur fendu. Donc, on doit pouvoir avoir l'âme en joie et le corps faible, impuissant parfois.
Oui. Oui, voilà. Bon, peut-être qu'il faut faire confiance aux autres aussi.
Oui, il faut faire confiance aux autres, en leur amour, et faire confiance en la vie qui peut toujours apporter quelque chose d'heureux, qui peut... En réalité, la joie, elle est en soi. Il suffit de la faire jaillir.
Bien sûr.
Et souvent, c'est nous qui ne voulons bien pas, sûr. Qui mettons des tas de couvercles pour l'empêcher de...
Alors souvent, jaillir. On sent qu'il y a cette angoisse de la mort. Est-ce qu'il prie vos personnages ?
Je pense, oui, que certains prient. Alors, ils prient peut-être mal, mais on devine, on sent qu'ils savent
c'est
qu'il
certain,
y a quelque
oui.
chose, qu'il y a autre chose. Mais parfois, ils ne parviennent pas à surmonter leur angoisse.
Oui. On va vous quitter un bref instant votre ouvrage. Nous allons écouter du jazz. Alors, il se trouve que je ne sais pas si c'est vraiment adapté au thème, mais Fats Domino nous a quittés ces jours derniers, il n'y a pas très longtemps. C'était un jazzman et il a écrit Blueberry Hill.
I found my thrill. On Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still. On Blueberry Hill, it lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made were never to be. We're apart. For you were my thrill on Blueberry Hill. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made but only to be. Though we're apart, you thought of me still.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Anne Lasservergne pour son ouvrage « Moi, je conduirai les chevaux ». Alors, Anne Lasservergne, vous n'y couperez pas, je vous demanderai pourquoi ce titre.
Alors, le titre est tiré d'une phrase qui appartient à une nouvelle. Je crois qu'elle s'intitule « Par un doux matin de printemps ». C'est une... Je me suis inspirée d'une personne que j'ai rencontrée qui habite dans les Pyrénées et qui a, en quelque sorte, vivé comme on vivait en Bigorre au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupait que de son jardin, de son potager, de son poulailler, et elle ne sortait plus. C'était son mari qui allait lui acheter ses tabliers, par exemple, et après ses enfants. Elle était véritablement, elle ne connaissait que la ferme, le centre du village tout petit, et l'église où elle se rendait à chaque cérémonie. Et donc j'ai imaginé son enterrement et quelqu'un qui propose de conduire les chevaux à un moment où on allait au cimetière dans un char en quelque sorte tiré par des chevaux et le palefrenier meurt. Et quelqu'un se propose de remplacer le palefrenier pour qu'on évite d'être emmené au cimetière coupé de la nature, coupé des voisins dans ses voitures.
Et il l'amènera jusqu'à sa dernière demeure.
Voilà.
Alors ce matin-là, pour aller à l'église, j'ai pris le chemin des Écoliers, oubliant que la ligne droite est le plus court chemin pour se rendre d'un point à un autre. J'ai proposé à Rosine de bagnauder, pour une fois de transgresser les normes établies. J'avais étrié les chevaux, lavé et fleuri la charrette avec des marguerites, des brassées de glaïeul sauvage et quelques lys, afin que sur ce lit de fleurs, on déposa doucement la grande boîte vernie dans laquelle son corps reposerait désormais. Nous avions pour nous deux grandes heures. Jamais elle n'avait eu pour elle autant de temps. Beau passage, beaucoup de beaux passages. Et alors ce que vous montrez dans la vieillesse aussi, et il faut que nous en prenions bonne note, c'est que le caractère s'accentue, se rigidifie aussi. Ils sont pas forcément commodes, vos personnes âgées.
Non, effectivement. Certains semblent développer leur, pas leur côté négatif, mais oublient d'ouvrir leurs yeux, leurs oreilles, pour s'enfermer dans des codes rigides, comme si cela pouvait les protéger de quelque chose, on a l'impression.
Oui, et dans la mesure où ils ont l'impression aussi que tout leur échappe, même leur place.
Oui.
Ils en veulent un petit peu, certains, à la terre entière. Essaient tout, par tous les moyens de se raccrocher. C'est un peu dur, mais ça fait réfléchir également, parce que quelle place donnons-nous aux personnes âgées? Et ça aussi, vous le montrez très bien, le comportement des autres, de la famille, des soignants, de l'entourage.
Oui. Je pense que effectivement, vous avez raison. Il faudrait peut-être qu'on reconsidère la place que l'on donne aux personnes âgées, d'autant plus que elles vont être de plus en plus nombreuses là avec le baby boom, etc. Et je pense que dans les sociétés où la personne âgée était considérée comme un sage à l'intérieur de la famille, elle ne perdait jamais sa place, tandis qu'on a l'impression que maintenant elles sont quand même un peu écartées.
Oui. Oui, oui. Elles sont mises de côté.
De
petit
côté,
à petit.
Voilà.
Il y a les filles aînées qui prennent la place, qui prennent le relais, bien forcément aussi.
Oui, mais qui vont prendre les décisions, qui vont peut-être parfois oublier de poser des questions toutes simples. Qu'aimerais-tu manger? Que voudrais-tu faire? Et qui décide du menu ou qui.
Oui. Alors, ce que vous avez observé aussi, je pense, avec beaucoup de finesse, c'est peut-être aussi ce risque d'une distance qui existait peut-être avant, mais qui risque de se creuser entre ses enfants et la personne.
Oui.
Du fait, justement, de ce sentiment d'être un peu relégué.
Oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai rencontré des personnes âgées, effectivement, on avait l'impression qu'elles se mettaient dans leur fauteuil comme dans un château fortifié et que l'échange devenait de plus en plus difficile avec ces personnes, même en faisant appel à leurs souvenirs. Et que finalement, parfois, elles communiquaient plus avec des personnes étrangères qu'avec les membres de leur propre famille.
Oui.
Alors et ça, je trouve ça un peu douloureux pour la famille.
Pour la famille aussi. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du roman de Anne Lacerverne, « Moi, je conduirai les chevaux ». Et nous continuons notre entretien parce que, en fait, c'est difficile, mais à un moment donné, il y a une page très belle aussi où vous montrez que parfois, il y a des non-dits qui se sont installés, des choses qui ne se sont pas dites et qu'il faut dire. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Récemment, un psychiatre est venu parler des secrets. Des secrets de famille, de toutes sortes de secrets. Et finalement, même si ce ne sont pas des secrets, mais dire notre affection, notre amour aux parents, et que les parents disent à leurs enfants aussi.
Oui, je crois qu'effectivement, on devra apprendre à formuler ses sentiments, ses impressions, ses colères parfois, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Au lieu d'entasser, comme l'un des personnages, des ressentiments épouvantables qui l'empêchent de vivre ou de parler à sa propre mère. Oui. Et quand elle parlera, ça sera un peu tard.
Voilà, la parole enfin libérée, mais un peu tard. Il paraît que c'est quand même important, mais pour elle. Mais pourquoi n'a-t-elle pas parlé plus tôt? On peut se poser la question. Mais vous parlez également, il y a une nouvelle dans laquelle vous montrez une femme d'ordre, vraiment d'habitude, d'exactitude, un peu psychorigide, hein, selon
oui.
moi. Et elle se révolte, dans le fond, contre la vieillesse et sans doute contre la mort. Et il y a, ce qu'on disait précédemment, une distance qui s'est installée entre ses enfants et elle, ou qui s'est installée. On peut se poser la question également des relations parents-enfants, à quel que soit l'âge.
Oui. Et c'est pour ça qu'à la fin, la fratrie, c'est la première nouvelle, adieu maman.
Oui, c'est la première nouvelle, voilà. Effectivement.
La fratrie, d'un seul coup, il faut imaginer des quadragénaires, d'un seul coup se demande, mais qui est notre mère?
Et puis ils découvrent quelque chose qui les épate.
Un poème, et ils ne savaient pas que leur mère écrivait des poèmes, ou aurait pu écrire un poème. Finalement, on enferme aussi beaucoup les êtres qui nous entourent dans des rôles.
Voilà.
On l'a enfermée dans son rôle de mère, et on oublie qu'elle est un être humain et qu'elle n'a...
Mais de même que les enfants peuvent être enfermés
dans leur rôle d'enfant.
Dans des rôles
ah
aussi,
oui, oui, oui,
oui.
Oui, oui.
Et
on ne voit pas des adultes en eux, parfois.
Oui, exactement. Et on ne connaît pas ses parents.
Et on ne connaît pas ses parents, non.
Alors, on voit combien... Et vous parlez aussi des relations mère-fille. On sait qu'elles sont parfois compliquées. Et on a parlé de cette mère encore dure, sans tendresse, et c'est vrai qu'on parfois on en connaît aussi, hein, et qui ne parlera pas, qui partira, qui toujours critique.
Oui.
Et cette fille, sa fille désemparée, toujours en quête d'un signe d'amour qu'elle n'aura pas.
Qu'elle n'aura pas. Oui, 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 oui. Et ça, là aussi, c'est une réalité, hélas. Et c'est pour ça qu'une des premières choses à apprendre, moi je pense, aux enfants, et ça peut être le rôle des grands-parents, des parents, des éducateurs, comme on disait tout à l'heure, c'est d'apprendre à exprimer ses sentiments, à dire ce que l'on ressent.
Absolument.
À ne pas se contenter de pleurer dans un coin, ou de trépigner, ou de courber le dos.
Tout à fait. Alors, il y a également une nouvelle qui met en scène, si je peux dire, une famille nombreuse. Alors, ça va, ça vient, sa vie revolte, conversation à bâton rompu. Roxane a pris le chemin de sa mère, c'est-à-dire assez autoritaire. Dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui prend les choses en main, mais en même temps, il faut les remercier aussi, parfois. Et puis, Élodie, la musicienne, et le père arrivent. Et là, on se rend compte que finalement... Dans les familles nombreuses, il y a aussi la difficulté de se faire entendre.
Oui, parce que justement, donc celle que l'on appelle désormais Mélodie, on lui pose une question à laquelle elle ne pourra jamais répondre, parce que la fratrie est heureuse de se retrouver, finalement, et chacun, on pose la question, mais on parle aussi tout à fait d'autre chose. Et c'est effectivement parfois difficile de communiquer dans une fratrie, tout à la joie que l'on peut être des retrouvailles. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, la difficulté de la communication. Et c'est pour ça que je pense que les mots écrits ont beaucoup plus de poids que les mots dans le quotidien, à l'oral. Parce que d'abord, les mots écrits sont choisis et on les met à côté d'autres mots. Ils peuvent être relus. Alors que dans le quotidien, finalement, on parle parfois beaucoup pour ne pas réellement échanger ou pour ne pas communiquer vraiment. Oui. Parce que chacun ne met pas, alors qu'on partage les mêmes idées, les mêmes sentiments, on ne met pas le même sens derrière parfois les mêmes mots.
Absolument. Alors, il y a une nouvelle étrange, la vie de décès, qui fait un peu froid dans le dos. Peut-être qu'il ne faut pas en parler parce que finalement, chacun va y trouver une explication. Est-ce qu'il y a une explication? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais dans le fond, chacun va peut-être apporter son explication.
Voilà, je pense. Moi, j'en avais une explication, et c'est dans ce sens que je l'ai écrite, cette nouvelle. Et d'autres personnes m'en ont parlé, qui l'ont beaucoup aimé, et mettaient autre chose. Et cela m'a fait penser à Voltaire qui disait que le lecteur fait la moitié du livre. Et je suis de plus en plus persuadée de cela quand je vois les retours que j'ai concernant les personnages. C'est assez extraordinaire quand on me dit « je me suis reconnue dans tel aspect du personnage » ou « j'ai reconnu telle personne ». Et les interprétations que l'on peut donner d'une nouvelle, d'un récit court.
Oui,
par exemple.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et parfois, c'est vrai que vous accordez la liberté à l'auteur de s'emparer de votre ouvrage, hein, de cette histoire. Alors, il y a une nouvelle qui est drôle, sans être vraiment drôle quand même, là, qui se meurt au Val-de-Grâce, c'est la question. Il y a de l'agitation dans ce Val-de-Grâce, qui est un hôpital mythique aussi, puisqu'on sait que les grands de ce monde y ont été soignés, et en particulier nos présidents de la République. Alors, je vous propose de vous lire un petit extrait, et puis je vous laisserai le plaisir de lire la fin. Je n'ai pas très grave si on lit la fin de l'histoire, non.
Non.
Les biologistes avaient fait diligence, les premiers résultats apparaissaient déjà sur les écrans. La vieille dame entendit chuchoter « aphasie ». « Ah, me voilà sauvée !» pensa-t-elle. Elle ne savait pas si elle devait féliciter le tourangeau Armand Trousseau pour avoir créé ce nom traduisant le trouble du langage qu'est l'absence de parole, ou réprimander le clinicien heureux d'avoir pu mettre un nom sur ce qui pouvait expliquer son état. À vrai dire, elle aurait pu les aider en formulant ce qu'elle ressentait, mais elle n'avait même plus l'envie, le courage à force de décrire les symptômes par lesquels se manifestaient toutes ces maladies. Elle aurait pu. Elle n'était pas plus aphasique que la plupart de ses concitoyens, mais que leur dire? Que les mots utilisés avaient perdu leur première fraîcheur? Qu'ils avaient tous ou presque dépassé leur date de péremption? Que la parole était devenue un simple langage permettant d'exprimer ses besoins alimentaires, une sorte de kit de survie. J'ai faim, froid, sommeil, je veux. Ah, ça, les membres du gouvernement, dans l'exercice de leurs fonctions, jonglaient avec le verbe vouloir. C'est fou ce qu'ils voulaient. Mais où s'en était allée la parole, l'expression de soi, de son rapport au monde, de la compréhension de soi, des autres et du monde. La parole qui dit la vie, la liberté, la lutte contre les tyrannies. Elle contempla sa pensée avec une tristesse infinie. Elle pourrait dire « Non, docteur, je ne suis pas aphasique, je suis muette, juste muette. Que dire quand on n'entend plus sur les ondes que des pensées vides de sens, à ne pas confondre avec une pensée vide de son sang, pardon, de son sens, une pensée privée du sens qu'elle contenait. Je succombe à la mort de la pensée. » Alors, voilà le monologue d'une vieille dame que l'on ne connaît pas. Mais voilà que, à la page 68, quand la porte de la salle d'opération s'ouvrit...
Enfin, pour livrer passage à l'équipe médicale au grand complet, le chef du gouvernement se frotta longuement les yeux pour revenir à la réalité. Il ne prononça ni « alors », ni « c'est grave, docteur ?» Mais tout son visage n'était qu'un grand point d'interrogation. Chacun prit la parole à son tour selon sa spécialité. État compassionnel exacerbé, d'où perte des valeurs et des réalités. Nous l'avons transfusé, entièrement vidé de son sang, mais je ne vous cache pas qu'il faudrait des hectolitres de sang neuf pour la ramener à la vie. Parlez-en au Premier ministre. Des globules blancs en nombre phénoménal, une anémie irréversible. Nous n'avons pas à juger, mais que fait le ministre de la Santé? Une tumeur au cerveau gauche. Prévenez rapidement le ministre de l'Éducation. Nous avons été obligés de l'amputer. Un début de gangrène à la jambe gauche. Je n'aimerais pas être à la place du ministre de l'Intérieur. La dernière blouse blanche sembla prendre la mesure de l'homme qui se tenait en face de lui, comme s'il hésitait à asséner le coup de grâce. Il me reste à annoncer le plus délicat. Le chef du gouvernement blêmit, vacilla sur ses jambes, se laissa tomber sur la première chaise. Madame Democratia souffre du seul cancer que l'on ne sait pas guérir, le cancer de la démagogie.
Nous enchaînons par du jazz pour mettre un petit peu d'optimisme.
Oui.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back
back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Et avec Anne Lasserre-Vergne qui vient nous parler de son ouvrage « Moi, je conduirai les chevaux » paru aux éditions Nouvelles Lucanes. C'est bien ça.
Aux éditions Lucanes.
Lucanes, oui. Ah voilà. Oui, parce que nouvelles, ce sont oui. Des nouvelles, en fait. Hein, voilà. Alors, des nouvelles, et voilà les nouvelles de la seconde partie. Et alors là, c'est très différent. Et on voit le plaisir, Anne Lasserre-Vergne, que vous avez avec les mots. On se rend compte, et d'ailleurs vous dites les mots écrits sont moins trompeurs, ce que vous disiez, que les mots prononcés.
Oui.
Et là, c'est l'ode à l'écriture et aux mots, à plusieurs reprises.
Oui, je trouve, bon, nous avons une chance extrême d'être doués de la parole. Et je pense qu'on pourrait s'en servir beaucoup mieux de la parole pour communiquer. Ça éviterait bien des conflits, déjà. Et la chance qu'a l'écrivain, c'est de pouvoir jouer aussi avec les mots. Et dans cette deuxième partie, effectivement, je m'intéresse aussi à la fois au travail de l'écrivain, à la création de ses personnages et au plaisir d'écrire, ou parfois à la déception quand un écrivain ne parvient pas à faire évoluer ses personnages comme il le souhaiterait.
Alors, dans une nouvelle, il y a les lamentations de l'oracle.
Oui.
Ça, c'est très drôle. Les nouvelles sont sur le journal.
Oui, alors je suis partie du mythe d'Œdipe que j'ai voilà, réactualisé et je me suis demandé, mais en fait, Œdipe et ses parents, Jocaste et Laïos, ont oublié qu'ils étaient libres, leur liberté d'être. S'ils n'avaient pas cru, si les parents n'avaient pas cru l'oracle, ils n'auraient pas abandonné leur enfant. Donc, il n'aurait pas tué son père, ni épousé sa mère, et lui-même, s'il n'avait pas cru l'oracle, il n'aurait pas tué son père, ni épousé sa mère, puisqu'il ne les connaissait pas, étant persuadé qu'il fuit ses parents adoptifs, en quelque sorte.
Oui.
Et alors, voilà, ça m'a permis de réfléchir sur la liberté que nous avons de conduire notre vie. Et...
Oui, on n'est pas forcément prédestiné, contrairement à ce que croyait Œdipe. Et puis, il y a un conte à la manière de Marcel Aimé. Je suis un romancier repenti. Alors là, oui, on a ça, je me suis dit, j'ai fait cette comparaison, j'ai pensé à Marcel Aimé, et c'est très drôle, c'est même parfois désopilant. Il est, alors j'essaie de retrouver,
oui,
voilà. Si je suis un auteur repenti, qui me croira ? Mes enfants, assurément non. Ma femme, encore moins. Mes parents, ils ne sont plus là pour se prononcer. Mes amis, je n'en ai pas. Mes ennemis ne m'ont jamais pris pour un écrivain. Et pourtant, je suis un romancier repenti. Je n'écris plus. Je n'écris plus, je prends du Prozac, principe actif fluoxétine. Vous vous en foutez du principe actif, moi aussi. N'empêche qu'un comprimé, vos trois pages dactylographiées. Qu'est-ce qu'il est arrivé à cet écrivain-là ?
Alors, voilà,
est-ce que ça vous est arrivé ?
Pas du tout. Mais j'ai imaginé donc un personnage grincheux, un écrivain grincheux, et qui finalement donc a du mal à écrire. Alors il est invivable en famille, il le sait, il s'en rend compte. Et ensuite, je me suis amusée avec ces personnages qui s'échappent des livres en quelque sorte.
Alors, voilà, voilà. Oui. Oui, ils n'appartiennent plus à l'écrivain.
Voilà. Oui. Et donc, Antigone Danouille se promène sur les étagères, Perrette et son pot au lait de La Fontaine. Donc, on va retrouver Madame Bovary.
Oui, Madame aussi. Bovary, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore Alors, ah non, Emma, m'écriai-je, le comte Alma Viva ne vaut pas mieux que Rodolphe. Il vit avec ses personnages, oui, ou avec les personnages de d'autres écrivains. Si l'on pouvait la mixer en parlant d'Antigone,
oui,
avec Emma Bovary, on aurait peut-être un produit fini intéressant. En attendant, cela fait quelque 25 siècles qu'elle nous emmerde, la nièce de Créon, qu'elle sème la zizanie partout où elle passe, et les autres qui votent pour la parité, qu'ils mettent une Antigone au gouvernement, je ris d'avance.
Oui.
Serait-il un peu misogyne ?
Oui, voilà, aussi.
On rit beaucoup dans cette nouvelle. Et puis, il y a la toute-puissance de l'écrivain, droit de vie, droit de mort, dans le procès où il dit votre honneur, comme dans les films américains.
Voilà, oui, alors là, je me suis amusée, effectivement, et j'ai fait en sorte qu'on puisse croire que ça se passe en Amérique, parce que l'expression « votre honneur », cet écrivain qui est accusé parce qu'il a fait périr ses personnages, voilà, il ne savait plus quoi en faire de ses personnages, parce voilà, qu'il n'avait pas évolué comme il le souhaitait.
Et il avait envie de s'en débarrasser.
Et du coup, il avait envie de s'en débarrasser, après les avoir abandonnés quelque temps dans un ascenseur pour faire autre chose.
Mais je me suis dit que la panne, ça pouvait arriver. Peut-être que parfois, un auteur peut s'engager dans une impasse, non ?
Oui, 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 effectivement. On le voit. Je connais des auteurs qui me disent qu'ils ont abandonné un manuscrit pendant un certain temps. Il y a le fait qu'on porte beaucoup en soi. Le premier recueil de nouvelles qui concernait les relations mère-enfant, qui s'intitule « Marie-Médée, Jocaste et les autres », j'avais envie de l'écrire et j'ai presque attendu 8 à 9 mois avant d'écrire toutes les nouvelles en suivant. Jusque-là, bon, je les portais en moi,
ouais,
mais je ne les écrivais pas.
Ça mûrissait.
Ça mûrissait.
Voilà. Alors, il y a également une nouvelle sur le goût des mots, ce goût différent. Et je pense, à Jean-Michel Follon, qui illustrait l'émission qui s'appelait Italique.
Oui.
Vous voyez,
oui.
Et c'était très beau. On voyait ces hommes qui avaient un livre ouvert dans le dos,
oui,
et qui volent comme ça. Les mots, la magie des mots. Et je comprends qu'on puisse aimer jouer avec les mots. Comment écrivez-vous, Anne Lavernser ? Comment écrivez-vous ?
Alors, donc, je pense d'abord que je porte beaucoup en moi. Puis, j'ai toujours avec moi de quoi écrire quand une phrase vient. Parfois, à partir d'une phrase, j'écris. À partir d'une émotion forte. Donc, je note et puis je mets dans un tiroir. Et parfois, un mois, deux mois, six mois après, je reprends mes notes. Parfois, c'est une simple phrase. Et à partir de là, j'ai l'impression que tout se met en place. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est un petit peu l'énigme, le tableau de la vie intérieure. C'était le philosophe Alain qui disait que tout roman est le tableau d'une vie intérieure. Et j'aime bien mettre à nu ce que l'on ne dit pas, ce qui se passe en nous. Mais j'avoue que le premier jet n'est jamais
le dernier
définitif. Voilà, jamais le dernier. Et jusqu'en 2012, j'écrivais que sur du papier avec un crayon. Et depuis 2012, on m'avait demandé d'écrire un ouvrage sur la vie quotidienne dans les Pyrénées au 19e siècle, ouvrage que je devais rendre à une date précise. Et pour la première fois, j'ai travaillé sur ordinateur. Et depuis, donc, je tape sur le clavier directement.
Et est-ce que ça change l'écriture?
Alors, je pense... Alors, on m'a dit que mon écriture avait changé. Alors, est-ce moi qui ai changé, puisqu'on m'avait dit, on m'avait dit de me libérer un peu plus dans l'écriture, ce que j'ai fait? Et où est-ce le fait de taper sur un clavier? Ça, je ne saurais pas le dire.
Mais le problème, vous le savez, Anne La Cerverne, c'est que lorsqu'on exposera vos manuscrits, on ne verra plus de repentis.
Et voilà, c'est ça le drame. J'y pense souvent, pas pour mes manuscrits, mais pour les manuscrits des grands écrivains, des grands auteurs.
En tout cas, un grand merci pour votre écriture, votre témoignage, vos réflexions sur la vieillesse, sur la famille. Ça interroge beaucoup, ça fait réfléchir aussi vos lecteurs, également sur votre écriture et ce plaisir que vous avez à manier les mots. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de « Moi, je conduirai les chevaux » aux éditions Lucane. Au revoir.
Au revoir, Monique.